Comment est né ce mouvement des logiciels libres? D'où c'est parti? On va expliquer ce qu'est un logiciel libre, parce que c'est important d'expliquer ce qu'est un logiciel libre. Les différences avec les logiciels qu'on dit nous propriétaires, donc les logiciels qu'on connaît le plus communément. Donc on va revenir dessus. On va expliquer aussi, au-delà du logiciel, toute la culture libre, tout ce qu'on appelle culture libre, tout ce qui tourne autour du logiciel libre en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va expliquer tout au long de ce diaporama. Mais il y a eu des visionnaires avant les logiciels libres, avant tout ça. Il y a une idée simple qui, voilà, Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, qui déjà à l'époque disait, voilà, celui qui reçoit une idée de moi, reçoit un savoir sans diminuer le mien. C'était déjà le partage de la connaissance, que les idées circulent librement de l'un à l'autre partout sur la planète. Donc on était déjà en 1800 et quelques, sur cette idée de partage du savoir et de dire que quand on partage un savoir, on perd pas le savoir qu'on a partagé. On l'a toujours, on le diffuse et ça se multiplie. Donc on va revenir quand même sur un peu d'histoire. Donc avant 1980, comme c'est écrit là, les logiciels étaient livrés avec le matériel, on a un bel exemple là, et les logiciels étaient livrés sous forme de code source. Je vais expliquer tout à l'heure ce qu'est le code source, mais c'est extrêmement important pour comprendre les logiciels libres. En 1981, on a connu la création du PC, livré avec Microsoft DOS. Et puis là, ça a été le début des logiciels livrés sans le code source. C'est-à-dire qu'on vous livrait le logiciel, mais il n'y avait plus de quoi ce qui permettait de le fabriquer. Et puis en plus de ça, les licences d'utilisation prévues pour limiter les libertés de l'utilisateur, pour restreindre l'utilisation du logiciel à une seule machine, etc. En réaction à ça, en 1983, Richard Stallman, qui dont la photo est là, un chercheur du MIT, a inventé le projet GNU. C'était au départ, c'était donc il y avait Unix à l'époque, qui était un logiciel donc propriétaire, payant relativement cher. Et ce monsieur Richard Stallman a décidé que lui, il avait envie de distribuer un système d'exploitation de manière libre, totalement libre, pour contrebalancer tout ce qui était licence d'utilisation prévue pour limiter la liberté. Et voilà, son postulat, c'était que le logiciel, c'est une forme de connaissance. Comme on l'a vu, la connaissance est faite pour être diffusée. Elle doit être partagée. Et donc, il a formalisé le concept du logiciel libre autour de ce projet GNU. Voilà, après, je sais.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est
Voilà.
que, voilà, si vous l'avez compris, c'est que avant 81, donc avec la création du PC livré donc avec MS-DOS, les logiciels étaient libres. Voilà, il n'y avait rien, il n'y avait aucune licence.
Il n'y
Voilà,
avait pas de licence.
c'était. Chacun pouvait reprendre le logiciel et en faire ce qu'il voulait.
Ça a été la grande invention de Microsoft, la licence.
Voilà, Microsoft sur IBM.
Donc ensuite, quand même, près de 10 ans plus tard, en 1991, le projet GNU était relativement avancé, mais pas encore abouti. Linus Torvald poste un message sur un forum qui informe que dans son coin, tout seul, il a créé un système d'exploitation. Et donc, c'était Linux, qui s'appelait pas Linux à l'époque, mais bon, peu importe. Et voilà, c'était un passe-temps pour lui, c'était une façon de découvrir comment fonctionne un ordinateur, et puis de ne pas payer de royalties, donc il a vraiment tout codé dans son coin. C'était microscopique au départ. Et il a diffusé un message en disant, voilà, j'ai fait un petit truc dans mon coin, si ça vous intéresse, étudiez-le, récupérez-le, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Il faut savoir qu'en 91, Linux n'était pas libre. Il était distribué gratuitement, mais il n'avait pas cette notion de liberté dont on va parler. Il a été libéré qu'en 1992, quand Linus a estimé qu'on ne pouvait plus lui enlever la propriété de ce qu'il avait créé. Donc on a quand même, c'est humain, hein, on crée quelque chose, on en est relativement fier, on n'a pas envie de se le faire piquer malgré tout, même s'il l'a diffusé gratuitement, et donc il a libéré le code source, il a donné le code source qu'un an après, à partir de 92. Sur cette base de noyau Linux est venu se greffer le projet GNU, qui n'était pas abouti parce qu'il lui manquait justement ce noyau, le cœur du système, il ne pouvait pas tourner. Il y avait beaucoup de logiciels autour, mais il n'y avait pas le cœur du système. Linux est venu combler le manque. Et donc sur cette base, en 93, Debian, une distribution Linux, est née, grâce à Ian Murdoch. C'est le Ian de Debian. voilà, donc c'est une distribution Linux qui existe encore aujourd'hui, qui est entièrement communautaire, développée par des bénévoles. En 1996, la communauté qui commençait à se former autour de Linux et chercher une mascotte, ils ont trouvé le petit Tux. Alors Tux, c'est un manchot. C'est pas un pingouin. Il y a beaucoup de gens qui distinguent, ouais, mais c'est un manchot. Et puis, un peu plus proche de nous, en 2004, une distribution qui a vu le jour, qui est relativement connue aujourd'hui, qui s'appelle Ubuntu, qui a été formalisée, inventée par Mark Shuttleworth, sur fonds propres, puisqu'il a un peu d'argent, ce monsieur. C'est un milliardaire sud-africain, c'est le premier touriste de l'espace, pour situer.
D'où la photo.
D'où la photo. Et son rêve, à lui, c'est de détrôner Microsoft. Voilà, depuis le début, le bug numéro 0 de Ubuntu, c'est-à-dire celui qu'il faut corriger absolument, c'est Windows. C'est éradiquer Windows. Bon, on n'y est pas encore, mais on y travaille. Et aujourd'hui, il existe plus de 300 distributions basées sur Linux autour du projet GNU. Voilà, dont Debian, Mageia, Red Hat, enfin tout ça c'est du Linux en fait. Packagé avec un ensemble de logiciels prêts à l'emploi. Alors voilà, la grande question, qu'est-ce qu'un logiciel libre? Parce qu'on parle de logiciel libre, mais il faut quand même arriver à le définir à un moment donné. Le logiciel libre, c'est un logiciel qui a une licence. Comme tous les logiciels, c'est un logiciel, il y a une licence associée. C'est pas libre de droit, c'est pas du domaine public, on va y revenir. Donc la licence, au lieu de restreindre l'utilisation du logiciel, elle garantit des libertés. Quatre libertés, alors c'est assez informatique puisqu'on part de zéro. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme. Alors ça peut vous paraître tout bête, hein, exécuter un programme, c'est effectivement sa vocation première. Mais ça sous-entend exécuter le programme, quelles que soient les conditions. Quel que soit le nombre d'ordinateurs, quel que soit le nombre d'utilisateurs, il n'y a pas de restriction, on peut l'utiliser comme on veut. Voilà. La liberté d'étudier et de modifier le programme, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on peut récupérer le programme, récupérer son code source, je vais expliquer de suite après ce que c'est le code source. On peut étudier ce code source, on peut le modifier, et personne n'a rien à dire. C'est totalement libre. On peut copier le logiciel, sans que personne ait rien à redire non plus, c'est totalement libre. Et évidemment, on peut redistribuer le logiciel, donc soit le logiciel copié, on peut le donner à qui on veut, on peut redistribuer une fois qu'on a fait des modifications, on peut donner ces modifications et le logiciel qui va avec. Et donc tout ça, ça implique effectivement qu'on ait le code source.
Voilà, savoir que ces quatre libertés vous permettent d'utiliser, de copier, de redonner un programme à quelqu'un sans vous transformer en pirate. Tout à fait.
Les différentes licences, puisqu'on parlait de licences libres, on a essentiellement quatre types de licences. La licence propriétaire, alors la licence propriétaire typiquement c'est la licence Microsoft Word par exemple, qui vous permet d'utiliser le logiciel mais avec pas mal de restrictions. Notamment, vous avez le droit de l'utiliser mais sur une ou deux machines maximum. Au-delà de ça, il faut racheter. Bien sûr, vous ne pouvez pas le copier et sûrement pas le modifier. Très certainement pas. Il y a le shareware que beaucoup de personnes connaissent. Le shareware, c'est un peu particulier, c'est souvent un logiciel qui est gratuit, qu'on peut utiliser. Mais c'est pareil, malgré tout, on peut l'utiliser, mais il y a parfois des restrictions. On peut l'utiliser, à titre individuel. On ne peut pas l'utiliser à titre professionnel, ce genre de choses. On ne peut absolument pas le copier non plus, ni le modifier. Le freeware, c'est un peu au-delà du shareware, c'est le logiciel gratuit. Voilà, le logiciel gratuit, on peut l'utiliser, on peut le copier, on peut effectivement le distribuer parfois, mais on ne peut pas le modifier, on n'a toujours pas le code source, on ne peut pas apporter des modifications à ce type de logiciel. Et puis, bien sûr, le logiciel libre qui lui permet de utiliser, copier, modifier, tout ce qu'on veut, sans problème.
Ah, j'ai peut-être été un petit peu vite.
Ah, t'es un peu vite.
Il touche les sensibles.
Donc, le code source, le fameux code source dont je parle depuis tout à l'heure. En informatique, les ordinateurs, ils comprennent que la partie droite. Ce sont des machines, ils comprennent des 0 et des 1, c'est ce qu'on appelle le code binaire. c'est le logiciel qu'on vous livre et qui est exécuté par la machine. C'est le point exe, typiquement. C'est des 0 et des 1, c'est incompréhensible pour un être humain, et à part l'exécuter sur un ordinateur, ça sert à rien. Mais pour arriver à ce que la machine ait cette série de 0 et de 1, il a fallu qu'à un moment donné, un être humain écrive du code, écrive des instructions. Et ces instructions, en tant qu'être humain, écrire directement des 0 et des 1, c'est très compliqué. Donc on a un langage qui s'appelle le code source, qui, de manière plus ou moins humaine, entre guillemets, en langage humain, permet de décrire des instructions pour faire fonctionner le programme. Entre le code source et le code binaire, il y a une étape qu'on appelle compilation, c'est pour transformer le langage pseudo-humain en code binaire. Et bien souvent, pour faire l'inverse, c'est très compliqué et relativement interdit, dans la plupart des cas. Donc voilà, le code source, mais on va faire une analogie dans la diapo d'après. On a une analogie qui est très simple. Pour expliquer le code source, c'est la recette et le plat tout préparé. Vous allez au restaurant, vous avez le plat tout préparé, sans forcément avoir la recette. C'est le code compilé, c'est le point exe. Il est prêt à consommer, ça marche très bien, c'est très bon souvent, mais vous n'avez pas la recette pour le refaire. Pour avoir la recette, il faut le livre de cuisine, le code source, donc toutes les instructions à suivre pas à pas pour réaliser le même plat que celui qui a été servi au restaurant. Eh bien, le logiciel libre, quand il est fourni avec le code source, avec toutes les étapes qui permettent de recréer le même logiciel à l'identique. Avec tous les ingrédients, avec les doses à respecter, etc. Ça permet, si vous voulez, une fois qu'on a le code source, effectivement, en informatique, ça peut paraître assez abstrait, on dit, moi, le code source, ça m'intéresse pas, j'en ferai rien. Ça permet, même si nous, on comprend pas ce qui est écrit, à d'autres personnes de comprendre ce qui est écrit et de valider le code en lui-même. Ça permet de dire, par exemple, que dans le plat tout préparé, ben, il n'y a pas du cheval, par exemple. Même pire, du cheval aux hormones, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Donc, non, pas dans celui-là, non. Pas dans celui-là, pas dans le gâteau au chocolat. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir un petit peu d'arsenic.
Ah, oui.
Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, une fois qu'on a le code source, en fait, on sait les ingrédients qui ont permis de composer le logiciel, donc le plat en l'occurrence, et d'être sûr que, pour faire l'analogie avec le logiciel, qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas de malware, qu'il n'y a pas de logiciel espion, notamment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça permet de se dire que le logiciel en question, même si nous on est incapable de comprendre le code source, il y a plein de gens qui sont capables de le comprendre, qui ont été voir ce qui se passait dans le logiciel, et qui peuvent nous assurer derrière qu'il n'y a pas de souci, qu'on peut utiliser le logiciel de manière sûre.
Voilà, et avoir la recette, c'est également la possibilité de la modifier, de rajouter le petit ingrédient qui nous plaît plus, une nouvelle saveur, voilà. Donc c'est pareil pour le logiciel. On peut y rajouter ou faire rajouter par quelqu'un qui sait le faire un module qui permet de faire telle action qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on n'avait pas trouvé de logiciel pour le faire. Voilà.
Donc très important la disponibilité du code source. Donc comme je le disais, le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Alors ça, non, je l'ai pas dit. Pardon. Non, il n'est pas forcément gratuit. On a vu la licence tout à l'heure, qui, voilà, avec ses quatre libertés. Rien ne dit, dans cette licence, rien ne dit qu'on n'a pas le droit de le vendre. C'est pas interdit. On peut le vendre. On peut vendre du logiciel libre. On en reparlera sûrement dans le débat tout à l'heure, mais parce que c'est très compliqué de vendre du logiciel libre, mais il y en a qui arrivent. Et bien sûr, celui qui achète du logiciel libre peut le donner. La licence l'autorise à le donner. D'où la difficulté de le vendre derrière. Parce que, ben oui, c'est, quelque part c'est gratuit, donc mais il n'y a rien qui interdit de le vendre. Et il y a des sociétés qui vendent du logiciel libre et qui en vivent. Sans problème, ils ne vendent pas que ça. Un logiciel libre n'est pas libre de droit. J'insiste fortement là-dessus, parce que c'est souvent une confusion qui est faite. Un logiciel libre n'appartient pas au domaine public, il n'est pas libre de droit. Il repose sur le droit d'auteur, il a été fondé, la licence libre, la licence GNU dont on parlait tout à l'heure, est pleinement fondée sur le droit d'auteur. À chaque fois qu'on redistribue une modification ou un logiciel complet libre, il faut citer l'auteur original du logiciel. Il faut fournir la licence qui va avec, bien sûr, et citer l'auteur. Ça, c'est extrêmement important. Un logiciel libre est libre pour toujours. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été distribué sous licence libre, on ne peut pas refermer les sources, on ne peut pas se réapproprier le logiciel. On ne peut pas dire, celui-là, c'est moi qui... Voilà. À part, si l'auteur original, à condition qu'il n'y en ait qu'un, dise, voilà, je reprends mon logiciel. Parce que on est sur le droit d'auteur, il a tout à fait le droit de reprendre son code source. Mais toutes les versions qu'il a distribuées auparavant en licence libre restent libres. Donc un logiciel libre est libre pour toujours. On a donc la notion de copyleft, puisqu'on était basé sur le copyright, le droit d'auteur. On est, à contrario, nous, la notion de copyleft imaginée par Richard Stallman, et qui est mis en œuvre dans les licences libres, notamment la GPL, donc la GNU Public License, qui est dont Richard Stallman est à l'origine. Et par cette licence, la GPL, donc on a cette notion de redistribution avec toujours la même licence. L'auteur demande que toutes les œuvres dérivées, toutes les modifications soient distribuées sur la même licence. Alors tout ça c'est bien beau, on a dit qu'il y avait des gens qui vendaient un petit peu du logiciel libre, etc. J'ai parlé de Debian qui était une distribution totalement communautaire, mais voilà, qui c'est qui développe du logiciel libre? Qui a cet altruisme pour dire voilà, je vais développer un logiciel et puis quelque part je vais le donner? C'est pas évident. Donc on a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles qui développent sur leur temps libre, des étudiants, des informaticiens, et puis potentiellement n'importe qui a la capacité de développer un petit peu, peut développer du logiciel libre, ou participer à un projet. On n'est pas obligé de développer, de sortir du code, on peut faire de la documentation, etc. Il y a des salariés qui développent du logiciel libre, qui sont payés pour développer du logiciel libre, parce qu'il y a des sociétés qui estiment que finalement, ils ont énormément à gagner à s'appuyer sur des logiciels libres. Ils ne payent pas le logiciel au départ. Ils développent ce dont ils ont besoin. Ils récupèrent des bouts de logiciels que d'autres ont créés, enfin, etc. Ils sont vraiment basés sur cette économie du libre. Et donc, ils payent des employés, des salariés, pour continuer à développer selon leurs besoins, quoi, finalement. Il y a aussi énormément de laboratoires de recherche qui développent. Et puis, au total, il y a des centaines de milliers de contributeurs à travers la planète qui développent du logiciel libre. Autour de ça, il y a une communauté, bien sûr, qui gère les interactions entre les utilisateurs et puis les développeurs. Il y a de l'entraide, des conseils, grâce notamment à la rue de L. Si vous voulez venir, il n'y a aucun problème. Il faut bien se faire un peu de pub. Voilà, il y a bien sûr les rapports de bugs, les utilisateurs disent voilà, tiens, j'ai trouvé un bug, est-ce que vous pouvez regarder, creuser un peu, le corriger, etc. Ça aide bien sûr au développement du logiciel et à son amélioration. Des suggestions de fonctionnalités, n'importe qui utilise du logiciel libre, peut dire à un moment donné, tiens, moi j'ai besoin de ça, est-ce que vous pouvez me le développer? Alors après, c'est accepté ou pas? Ça dépend du nombre de demandes, mais il arrive souvent que ce soit accepté. Que les gens, les développeurs disent « Ah ouais, ben c'est super, on n'y avait pas pensé, on va le faire. » Ça se passe comme ça. Comme je le disais, on peut faire de la documentation, de la traduction. Donc la communauté qui s'est formée autour de tous les logiciels libres documente énormément, fait de la traduction. Les logiciels sont souvent disponibles dans des langues pour lesquels les autres logiciels ne sont pas disponibles. On a le Swahili, on a le Basque, on a le Normand, les logiciels libres sont... Ouf, il y a toutes les langues. Et l'Occitan. Et bien sûr, tout ça, ça fait qu'on s'approprie son outil informatique à 100%, puisqu'on participe pleinement au développement du logiciel, donc le consommateur devient utilisateur. La faute est voulue.
Voilà, donc le logiciel libre, en fait, contrairement à une intelligence individuelle du programmeur qui développe pour Microsoft, par exemple, bah là, on a une intelligence collective. Hein, c'est vraiment une communauté de personnes qui relie tout ça et qui arrive à sortir un logiciel aussi bon qu'une grande entreprise.
Le système GNU Linux... on va en parler. Donc je parlais tout à l'heure de distribution. C'est ces espèces de packages où on a le noyau Linux avec le projet GNU autour, avec des logiciels tout packagés, voilà, donc c'est le système GNU Linux, on appelle ça comme ça. C'est un assemblage de logiciels d'origine diverse, on a le noyau bien sûr Linux, le projet GNU autour, et puis tout ce qui est logiciel graphique, donc on a déjà le bureau, comme vous connaissez, avec le menu, les icônes, etc. Donc nous, dans le logiciel libre, on n'en a pas qu'un, on en a plein. Et puis toutes les applications pour faire fonctionner son ordinateur, faire de la bureautique, aller sur internet, etc. Donc il y en a quelques-uns qui sont cités, on va y revenir. Et donc tout ça, cet assemblage, ce système GNU Linux, c'est packagé sous forme de distribution. Donc les distributions, c'est l'intégration de tous ces logiciels entre eux, avec un système d'installation de logiciels supplémentaires qui est propre à chaque distribution, avec une procédure d'installation propre à chaque distribution. Globalement, c'est toujours à peu près la même chose, mais voilà, c'est chacun peut avoir la distribution qui lui convient le mieux, avec les logiciels qui lui plaisent plus que notre, voilà, etc. Globalement, j'ai l'habitude de dire qu'il y a à peu près une distribution par utilisateur, parce qu'il y en a énormément et qu'on peut vraiment trouver celle qui nous plaît. Linux, c'est un système d'exploitation pour les ordinateurs individuels, bien sûr. C'est un système d'exploitation aussi qu'on retrouve un petit peu partout actuellement, et de plus en plus. Depuis l'origine, c'est un truc qui a été développé par Internet et pour Internet, vraiment. Donc pour faire fonctionner l'infrastructure Internet, il faut savoir que Internet ne fonctionne quasiment que sur du logiciel libre. Qui a été fait pour du calcul scientifique, parce que vraiment on pouvait mettre plusieurs ordinateurs en commun pour calculer un seul calcul scientifique, et pour faire du développement, mais maintenant on le retrouve vraiment en bureautique, en multimédia, en jeu. On a mis des exemples de box, c'est pas pour rien. Toutes vos box actuellement tournent sur un noyau Linux. C'est du Linux à l'intérieur. On a de plus en plus les smart TV, les télé intelligentes. La plupart du temps, c'est du Linux à l'intérieur. On a les smartphones, les téléphones, voilà, tout ce qui est Android, c'est du Linux. Donc au quotidien, la plupart d'entre vous utilisez du Linux sans même le savoir. Côté bureautique, côté ordinateur individuel, on a pléthore de logiciels. On a vraiment un choix pour faire tout et n'importe quoi. On a de la bureautique, de la vidéo, navigateur web, courrier électronique, graphisme, etc., etc. Là, il y en a quelques-uns. Ils sont relativement connus. OpenOffice, Firefox, Thunderbird, VLC, qui est plutôt pas mal connu aussi. Et donc, tous ces logiciels là qu'on cite ici, ce sont des logiciels libres. Donc si vous en utilisez quelques-uns, voilà, vous utilisez du logiciel libre. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais...
Voilà, quand vous venez à la cyberbase de Marcillac, bah, vous allez retrouver tous ces logiciels-là, que ce soit sur les ordinateurs ou dans les ateliers, voilà, on peut vous apprendre à utiliser certains d'entre eux. Mm-hmm. Donc voilà, par exemple GIMP, là, le petit coyote pour la retouche photo, c'est vraiment l'équivalent d'un Photoshop. Mais gratuit, alors qu'un Photoshop, c'est libre, voilà.
Je tiens.
Alors qu'un Photoshop, c'est, je crois que le dernier, c'est 1 400 € la licence. Voilà.
Bah oui.
Ah oui.
Donc l'intérêt du logiciel libre pour un particulier, pour des gens comme nous, c'est déjà une démarche éthique. On en parlait dans la question au début, est-ce que l'informatique éthique, c'est du toc? On y revient, voilà, c'est vraiment une démarche éthique, c'est refuser quelque part la domination de Windows, c'est se réapproprier son système informatique, c'est s'équiper légalement et à faible coût, c'est-à-dire que voilà, on a le matériel bien sûr à acheter, c'est incontournable, mais côté logiciel, finalement on paye plus rien, tout est gratuit derrière. Les logiciels sont techniquement aussi intéressants que les logiciels payants. Il n'y a aucun problème là-dessus. On parlait de GIMP et de Photoshop, c'est l'exemple parfait. Hein. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose avec GIMP, qui est gratuit et libre, qu'avec Photoshop. Il n'y a aucun problème. L'utilisateur est plus impliqué, plus responsable, parce que finalement c'est un vrai choix quand on passe au logiciel libre. On ne fait pas les choses un peu par hasard comme ça, en se levant le matin. C'est vraiment une voilà, il faut être impliqué, il faut un petit peu plus, il faut avoir l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. Et ça responsabilise bien sûr, puisqu'on maîtrise mieux son ordinateur. Bien sûr, il y a toujours une entraide communautaire qui est très forte, qui est toutes les distributions ont leur communauté, leur forum, il n'y a aucun problème, les gens sont très ouverts. On peut contacter les développeurs, mais vraiment ils sont disponibles, ils sont ouverts. Je parlais tout à l'heure avec Nelly d'une suite logicielle pour les enfants, ce sont des jeux pour les enfants. Et il faut savoir que, par exemple, donc j'ai compris, ça s'appelle, cette suite logicielle est développée en grande partie, en tout cas l'initiative d'un développeur toulousain. Donc ouais, il y en a un peu partout. Et c'est quelqu'un qui est très abordable, qu'on peut contacter comme ça. Il a son adresse mail, il est disponible sur Internet et ça marche très bien. Quoi.
Il travaille dans une cyberbase.
Et il travaille dans une cyberbase. Comme quoi. Voilà, un autre intérêt du logiciel libre et notamment des systèmes Linux, c'est la sécurité. C'est un système, comme je le disais tout à l'heure, qui a été conçu par Internet et pour Internet. Et il faut savoir que dès le départ, la sécurité intrinsèque du produit a été voulue très forte. Et à tel point qu'on n'a pas de virus sur Linux. Déjà. Donc ça c'est déjà un bon point. Et puis, il n'est pas facile de développer des virus qui vont marcher sous Linux, parce que c'est tellement hétérogène que c'est difficile de cibler le système qui va fonctionner partout. Et puis les logiciels libres au-delà de Linux sont disponibles sur tous les systèmes d'exploitation quasiment, dont, en tout cas les plus connus, Windows, Apple et bien sûr Linux.
Voilà, moi ce que je voudrais quand même amener comme une petite précision, certains d'entre vous le savent peut-être, mais quand vous achetez un ordinateur dans le commerce, faut savoir qu'il y a une centaine d'euros que vous payez sur le prix de l'ordinateur qui part pour le système d'exploitation Windows. Donc quand on parle de système d'exploitation libre et gratuit, vous voyez sur du matériel la différence que ça peut faire. Moi je pense qu'il vaut mieux mettre 100 euros de plus dans l'ordinateur lui-même que pour le système d'exploitation quand on sait qu'on peut en avoir un gratuitement et qui fonctionne aussi bien, voire mieux.
Voilà.
Je vais dire.
Voilà, allez. Pour l'entreprise, l'intérêt du logiciel libre, puisque voilà, c'est bien pour le particulier, mais pour l'entreprise, on a bien sûr l'indépendance vis-à-vis des éditeurs. C'est ce qu'expliquait Nelly tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va se baser sur du logiciel libre, si elle a besoin d'une fonctionnalité particulière que le logiciel n'a pas au départ, peut très bien aller voir un petit développeur localement, dire voilà, j'ai besoin de cette fonctionnalité, est-ce que vous pouvez me la développer ? Le code est disponible, le petit développeur du coin peut très bien récupérer le code et développer la fonctionnalité manquante. C'est pas interdit, c'est même totalement recommandé, et donc on est indépendant vis-à-vis des gros éditeurs tels que Microsoft, j'y reviens, mais bon, il est un peu emblématique. Voilà, on prend le contrôle de son outil logiciel, puisque voilà, on fait développer ce dont on a besoin, on sait comment est fait le logiciel, on connaît son code source, donc on a un contrôle un peu plus complet. On bénéficie bien sûr de la réactivité de la communauté, c'est-à-dire que quand il y a un bug qui est découvert dans le logiciel, le bug est pointé du doigt, on dit tiens là ça marche pas, derrière il y a une communauté qui développe, qui réagit, et qui réagit souvent très vite, et le bug est corrigé très rapidement. On bénéficie bien sûr de la fiabilité dont je parlais tout à l'heure, pas de virus, et de la sécurité, voilà, donc c'est un système. Il y a des ordinateurs qui tournent sous Linux qui n'ont pas été redémarrés depuis plusieurs années et qui tournent toujours très bien, sans aucun problème. Il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de... Mais qui tournent, qui sont démarrés. Hein. Attention, on ne les éteint pas tous les soirs, etc. Il y a des ordinateurs sous Linux qui sont démarrés depuis plusieurs années sans aucun problème. Faites pareil avec un Windows et vous m'appellerez. Et bien sûr, pour l'entreprise, il y a quand même quelque chose de très important, ce sont les économies, puisque on ne paye pas le logiciel, on ne paye que ce dont on a besoin. Et puis, l'intérêt du logiciel libre, pour l'éducation, pour l'administration publique, on en parlait tout à l'heure à table, ça, c'est quelque part le logiciel libre, ce sont des valeurs dont on parlait aussi en début de cette présentation, des valeurs de partage, des valeurs de partage du savoir notamment, donc les valeurs de l'enseignement public, hein, c'est-à-dire d'apprendre, de partager le savoir à un maximum de personnes. On n'a pas de discrimination par l'argent, c'est-à-dire que les élèves qui utilisent des logiciels libres du style OpenOffice à l'école, ils peuvent à la maison retrouver le même logiciel sans forcément avoir à dépenser de l'argent. Et ils peuvent très bien continuer à apprendre par eux-mêmes à la maison. Il n'y a pas cette discrimination de dire « moi j'ai les moyens de me payer un logiciel et pas toi ». Il y a la possibilité bien sûr de travailler chez soi. Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, on peut, même le professeur peut dire, ben voilà, je te donne le logiciel, tu vas pouvoir continuer à l'utiliser à la maison. C'est plus souple et moins coûteux pour l'État, bien évidemment, parce que même si Microsoft donne des licences à tour de bras à l'éducation nationale, quelque part, c'est pas anodin, et c'est pas forcément gratuit. Là, il y a une phrase un peu ambiguë, là, le développement financé par l'impôt. Il faut savoir que certaines mairies en France ont pris l'initiative de faire développer des logiciels libres pour la gestion de leur mairie, tout simplement. Et ils ont dit, voilà, on va distribuer ces logiciels sous licence libre, et n'importe quelle mairie qui veut en France peut récupérer le logiciel, l'utiliser, l'améliorer, etc. Donc ce sont des développements qui ont été financés par les impôts au départ, qui ont été redistribués sous licence libre, et qui sont disponibles maintenant pour tous, et qui peuvent être améliorés par telle ou telle mairie, n'importe, être réutilisés sans aucun problème. Donc c'est vraiment, c'est financé par l'État, pour l'État, enfin pour tous, pour chaque citoyen, après, derrière, qui peut effectivement récupérer tout ça. Et bien sûr, la pérennité des données, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce problème de dire « oui, mais moi, j'ai pas la même licence, j'ai pas la même version du logiciel que toi, donc je peux pas ouvrir ton document que tu m'as envoyé parce que je suis bien embêté ». Bref, là, la réponse est toute simple, hein. Je t'envoie le truc, t'as pas la même version du logiciel que moi, ben c'est pas compliqué, tu la télécharges, c'est gratuit, tu l'installes, il n'y a aucun problème. Donc en France, on a quelques administrations qui sont passer plus ou moins timidement au logiciel libre, notamment la Direction Générale des Impôts, qui est passée, alors elle n'a pas totalement abandonné Microsoft, hein, elle a juste abandonné Microsoft Office pour passer à OpenOffice, c'était en 2005, et aux dernières nouvelles, je crois qu'ils y sont toujours. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. À une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, l'hémicycle aussi était sous logiciel libre, alors carrément sous Linux. C'est-à-dire que les parlementaires avaient droit à un ordinateur à titre personnel. Et cet ordinateur était fourni sous Linux, tout simplement. Bon, depuis, ça a un peu changé, malheureusement. Ils sont un peu revenus en arrière, puisque maintenant, ils ont le choix. Entre soit Linux, soit Windows. Je vous laisse deviner quel choix ils font. Mais à une époque, voilà, il y a une vraie volonté de passer sous logiciel libre et puis au-delà des passions politiques, parce que finalement c'était peu importe la choix de droite ou de gauche, voilà, on avait fait ce choix de passer sous logiciel libre. Et puis un peu plus récemment, voilà, le ministère de l'Intérieur qui est passé au logiciel libre aussi. Alors il y a eu bien sûr la gendarmerie, bien avant que la gendarmerie soit sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Ils sont passés effectivement sous Linux et puis OpenOffice, etc. Ça se passe très bien pour eux. Et maintenant, l'Intérieur essaye de prendre l'exemple et décide de passer eux aussi au logiciel libre. Donc ils vont dégager Windows et ils vont prendre Ubuntu à la place. Tout ça, c'est des mots, mais comment on fait pour utiliser concrètement du logiciel libre? Donc on a plusieurs choix. On peut installer des logiciels libres sous Windows, comme je le disais tout à l'heure, ils sont disponibles sous Windows, tous ceux qu'on a cités là, jusqu'à maintenant sont sous Windows. On peut faire un choix un peu plus avancé, on va dire, entre guillemets, on peut démarrer ce qu'on appelle un live CD. Alors un live CD, c'est un CD, tout simplement, qui contient un système d'exploitation. Vous pouvez démarrer sur le CD, comme vous démarrez sur le disque dur, mais au lieu de démarrer sur le disque dur, vous démarrez sur CD. Et ce CD va vous proposer donc un système complet, un bureau, des icônes, etc. Vous pouvez tester autant que vous voulez. Et puis une fois que vous avez fini, vous arrêtez la machine, vous sortez le CD, et quand vous redémarrez, vous revenez comme c'était avant, vous n'avez rien installé, vous n'avez rien touché, et vous avez essayé autant que vous voulez. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que quand vous voulez remettre le live CD, vous redémarrez, et si vous aviez changé le fond d'écran ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien, on est d'accord. C'est figé. Mais ça permet de tester en douceur tout un Linux, avec tous les logiciels disponibles pour ce Linux, sans pour se familiariser, sans forcément craindre d'installer ou de casser quoi que ce soit. Et ça marche très très bien. On peut également aller encore un peu plus loin et installer carrément un Linux, une distribution complète, en parallèle avec Windows ou non. C'est-à-dire qu'on a le choix, on a la possibilité de dire, voilà, j'installe mon Linux, je lui fais une petite place sur le disque dur à côté de mon Windows, c'est ce qui est actuellement sur ce PC d'ailleurs, même si là il tourne sous Ubuntu, mais voilà, au démarrage de la machine, on dit, voilà, ben, je choisis soit de démarrer Windows, soit de démarrer Linux. J'ai le choix. On peut l'installer en parallèle. Après, on peut faire le choix, évidemment, comme certains d'entre nous, de dire, ben voilà, Windows, il me prend de la place, je m'en sers jamais, il me sert à rien, donc je l'enlève et je mets que Linux. Ça, c'est l'étape ultime. Bien sûr, pour tout ça, on peut se faire aider par la communauté, il y a Internet, il y a les listes de diffusion, il y a la Ruduel, tiens, il n'est pas cité là, c'est pas bien.
La cyberbase.
Il y a la cyberbase, voilà, et puis évidemment, derrière tout ça, on peut participer, rapporter des bugs, faire de la documentation, etc. Ça fait partie de l'utilisation du logiciel.
Et promouvoir.
Et promouvoir.
Le logiciel.
Là, on y travaille. Et au-delà du logiciel, une fois qu'on a bien fait le tour du logiciel, qu'on utilise Linux à la maison et qu'on en est très content, eh bien, on découvre derrière cette communauté d'utilisateurs de logiciels libres des gens formidables et des artistes notamment. Des artistes. Donc on a, au-delà du logiciel, des œuvres artistiques. Alors là, c'est volontairement vague, c'est œuvres artistiques, hein, tout simplement, sous licence libre. Donc le petit CC, là, c'est Creative Commons. C'est un type de licence plus ou moins libre, on va en parler tout à l'heure. Mais qui offre donc un cadre juridique clair et simple pour la distribution d'œuvres de tout poil. Qui offre des libertés précises. Voilà, au moins, le minimum, c'est la diffusion. C'est de la libre diffusion, à minima. On peut aller plus loin. Et puis donc éventuellement des possibilités de réutiliser, de modifier. Donc c'est basé sur le même modèle que les licences logicielles libres, mais appliquées aux œuvres d'art. Et par ce biais, on a quelque part un nouveau rapport entre le public et l'œuvre, parce que l'œuvre est diffusée donc de manière généreuse, gratuitement. On peut la redistribuer et quelque part ça rapproche l'auteur de son public. Finalement. Les licences Creative Commons, donc, ça a été lancé aux États-Unis par un juriste, Lawrence Lessig, qui connaissait bien sûr les licences libres logicielles et qui voulait trouver un cadre adapté pour les œuvres. Donc il a créé un panel de licences, il n'y a pas une licence Creative Commons, mais il y en a plusieurs, qui sont plus ou moins libres, plus ou moins contraignantes, et qui autorise ou pas la modification, qui autorise ou pas l'utilisation commerciale, mais à minima, qui autorise la diffusion, la libre diffusion, à condition de citer toujours l'auteur d'origine, parce qu'on est toujours basé sur ce droit d'auteur, et on garde la paternité de l'œuvre, tout le temps. Voilà, donc selon la licence choisie, on est plus ou moins proche de l'esprit du libre ou du simple freeware, puisqu'on peut juste distribuer gratuitement sans forcément pouvoir modifier ou quoi que ce soit. Et ce type de licence rencontre un très grand succès, on les trouve de plus en plus sur Internet. Donc il y a le site qui est cité, creativecommons.org, qui donne plus d'infos sur ces licences-là. Donc selon ce principe de licence libre, on trouve de la musique. On trouve énormément de musique, il y a notamment deux plateformes voilà, qui sont essentielles, incontournables, c'est musiquelibre.org et Jamendo, qui diffusent près de 3000 albums pour l'une et puis 416 000 titres sous licence libre, c'est-à-dire qu'on peut aller sur ces plateformes, télécharger, écouter, distribuer, il y a des forums pour discuter et critiquer la musique. Et bien sûr, aucun risque de pénalisation, tout ça est gratuit, libre, c'est les auteurs qui volontairement offrent leur musique au public. Donc après, voilà, bien sûr, vous trouverez pas Michael Jackson ou quoi que ce soit, hein, on est d'accord. Ce sont souvent
Johnny Hallyday.
Voilà. Souvent, ce sont des artistes que personne ne connaît, malheureusement, parce que ils sont très bons, la plupart, et vraiment, on trouve des très très bons groupes. À titre, au nom de l'association, là, il y a quelques années, on faisait venir sur Rodez des groupes qui diffusent leur musique comme ça, et très sincèrement, on a passé des très bonnes soirées de concerts avec des gens qui font de la musique libre. Et c'était vraiment très bien.
Je voudrais préciser aussi, vous pouvez retrouver cette licence Creative Commons sur des images, des photos, que des photographes. On le voit après.
On le voit après, bien sûr. bien sûr, sous licence libre, on a l'incontournable Wikipédia. Il faut savoir que tous les articles qui sont disponibles sur Wikipédia sont diffusés sous licence libre. Vous pouvez les récupérer, les modifier, les redistribuer, tout ça gratuitement. La condition est toujours la même, il faut quelque part arriver à citer l'auteur d'origine de l'article, quoi. Et donc c'est, bon, tout le monde connaît, je pense, Wikipédia, l'encyclopédie collaborative. C'est chacun d'entre vous qui peut participer à éditer des articles sur Wikipédia, il n'y a aucun problème. Et c'est, je pense, effectivement un des plus beaux projets du livre au-delà du logiciel. Vraiment, c'est un projet fabuleux. Toujours sous licence libre, on en parlait tout à l'heure, on trouve des livres, mais des vrais livres, hein, je veux dire, c'est pas juste des petites nouvelles, c'est des vrais romans, il y a des vrais bouquins, il y a des milliers d'œuvres qu'on trouve en téléchargement sous licence Creative Commons. Alors on peut les télécharger, on peut aussi les acheter, c'est-à-dire que les auteurs se rémunèrent comme ça en vendant des éditions papier par an. Et voilà, donc on a par exemple Simple comme Ubuntu, c'est un livre dédié, c'est un des premiers livres qui a été distribué sous licence libre, entre guillemets, voilà, qui est dédié à la distribution Ubuntu, mais bon, il y en a plein d'autres, vraiment, il y a de tous les genres, et on en a donc, on en a distribué quelques-uns, enfin, une liste au jeudi en question, là, ils vous les feront passer, on les trouve sans problème, et ce sont des bouquins souvent très intéressants. Et puis. Sous licence libre toujours, on a de la cartographie. Il faut savoir qu'il y a un projet qui a démarré en 2006 qui vise à recenser tous les points géographiques possibles et imaginables, connus.
C'est Marciac.
C'est Marciac. C'est Marciac. Tout à fait. On reconnaît bien.
Ouais, j'ai vu le quai de la Burette, il n'a pas 36.
Voilà, non. Donc, ces données géographiques donc, sont libres. Elles sont éditées de manière participative sur le même modèle que Wikipédia, c'est-à-dire que c'est les gens, n'importe qui, vous, moi, qui peut, avec son petit GPS, se balader dans la rue et dire ben voilà, la rue, elle passe par là, et puis après, on met tout ça en ligne. Et ça donne des cartes relativement détaillées. Il manque encore pas mal de points, il y a du boulot sur Marciac, si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci.
Ouais, mais on voit quand même que ça ne manque pas de parking.
Ah,
oui, il y a beaucoup de parking.
C'est vrai. Et donc, la question, presque pour finir, c'est jusqu'où ira cette libre évolution, donc ce grand mouvement qui est amorcé depuis maintenant 30 ans, et qui continue à avancer, et donc la route est encore longue, mais la voie est libre. Et donc on parlait de photos sous licence Creative Commons. Voilà, c'est notamment une photo qui est diffusée sous licence Creative Commons, alors by NCSA, ça veut dire qu'on doit citer, on doit citer le nom de l'auteur. NEC, alors elle n'est pas tout à fait libre, on ne peut pas en faire d'utilisation commerciale. Par contre, on peut la modifier et distribuer, mais il faut redistribuer la version modifiée sous la même licence. Et donc après, c'est ExtraBox, c'est le monsieur qui a fait la photo et elle est diffusée sur Flickr. Il faut savoir que sur Flickr, il y a un moteur de recherche avancé, c'est pas le truc par défaut, mais il y a une recherche avancée qui permet de chercher des photos par type de licence. Donc on peut tout à fait trouver des photos sous licence libre sur Flickr.
Voilà, il y a le site aussi Wikicommons qui propose pas mal de photos sous des licences libres.
Tout à fait. Wikicommons, en fait, c'est la base documentaire média, entre guillemets, de Wikipédia. C'est-à-dire que toutes les photos qui sont sur Wikipédia sont dans Wikicommons. On vous a mis quelques ressources. Alors, bon, le projet GNU, pour en apprendre un petit peu plus sur l'origine du mouvement du logiciel libre. DistroWatch, c'est un site qui référence à peu près toutes les distributions Linux qui existent au monde. Framasoft. Framasoft, c'est un annuaire de logiciels libres, mais pas que. C'est vraiment tout un écosystème qui tourne autour du libre, autour de la culture libre. Ils proposent des livres, ils proposent de la musique, ils proposent des logiciels, ils proposent énormément de ressources autour du libre. In Libro Veritas, c'est la maison d'édition dont on parlait tout à l'heure dans le diaporama là, qui diffuse des livres donc sous licence libre. OpenStreetMap, bien sûr, dont on vient de parler, donc c'est la base cartographique libre. Et puis un site sur des logiciels libres pour l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant voilà, aussi pour les entreprises qui veulent utiliser du logiciel libre.
C'est un outil que j'ai découvert, donc un petit peu au hasard, mais c'est un site très simple d'utilisation et qui vous propose plus d'une centaine, je crois, de logiciels libres. Alors bon, c'est destiné à l'entreprise parce qu'on voit que c'est la CCI et puis la Chambre des métiers de Picardie qui a mis ça en ligne. Mais en fait, vous retrouvez des logiciels comme GIMP,
OpenOffice,
voilà, tous les logiciels libres dont on peut avoir besoin. Voilà, et c'est simple à télécharger. Voilà, pas besoin de faire une grande recherche.
Voilà. Avec une petite description.
Pour les élus, vous n'avez pas mis le logiciel de la mairie d'Arles?
Oui. Open Mairie? Oui, effectivement, on ne l'a pas mis.
C'est Open Mairie?
Open Mairie, oui, tout à fait. Tout simplement. C'est assez simple à trouver, effectivement. Donc voilà, le monde est libre.
Merci.